Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette cinquième ciné-conférence de notre saison. On a le très grand plaisir d'accueillir Mariana Otero, qui est, on pourrait faire une présentation plus étoffée que ça, mais je vais dire très simplement que c'est pour nous, à la Cinémathèque du documentaire, quelqu'un qui compte beaucoup hein, par son travail de cinéaste, qui aujourd'hui constitue une des œuvres les plus conséquentes et importantes, je crois, du cinéma français. Toujours selon la règle du jeu que vous connaissez maintenant, Mariana a choisi non pas un de ses films, mais le film de quelqu'un d'autre, d'un duo, donc Dans la terrible jungle, de Caroline Cappel et Ombline Lay. Et puis ensuite, elle va déployer une réflexion à partir de ce film et puis aussi, bien sûr, à partir de son travail sous ce très bel intitulé qui est, je crois, central pour la démarche documentaire, l'intitulé « Déplacer le regard ». Voilà, je vous demande d'accueillir Mariana Otero. Donc, chaque séance est unique, hein, vous l'avez vu depuis le début. Donc, Mariana va faire un propos introductif un peu plus étoffé que ceux que vous avez eus jusqu'ici. Ensuite, il y aura la projection du film et puis Mariana reviendra pour la deuxième partie de son intervention. Mariana, c'est à toi.
Bonjour. C'est un peu étrange d'être derrière ce bureau, mais bon, on va s'y faire. Donc quand on m'a proposé cette ciné-conférence en me disant que je pouvais montrer un film, j'ai tout de suite pensé à Dans la terrible jungle. C'est un film que j'aime énormément et que depuis longtemps j'avais envie de montrer. Mais il y a eu tous les confinements, etc., ce qui fait que j'avais pas pu. Et après, on m'a demandé de définir un thème. Alors là, ça a été un petit peu plus compliqué, mais comme il fallait aller très très vite, j'ai dit « déplacer le regard ». Voilà. Parce qu'effectivement, moi, ça me semble être, je dirais, la vertu, la raison d'être du documentaire. On va dire de l'art en général, hein, déplacer le regard, faire en sorte qu'on voit le monde avec d'autres yeux, qu'on voit le monde à travers les yeux des autres, qu'on le voit d'une manière et à une place que chacun, on ne peut pas voir. Donc, comme on est chacun un peu dans sa bulle, hein, je pense qu'on vit chacun dans son monde, on habite le monde différemment, on n'a pas la même perception de l'espace, on n'a pas la même perception du temps, selon évidemment qu'on habite dans des régions différentes, mais selon qu'on soit d'une classe sociale ou d'une autre, selon qu'on soit né dans telle ou telle famille. Enfin voilà, on a vraiment une perception du monde et j'ai la conviction qu'on n'est pas forcément dans le même monde. Et évidemment, la seule manière d'être ensemble, enfin d'arriver à vivre ensemble, à travailler ensemble, à faire de la politique ensemble et tout ça, c'est d'arriver à se comprendre. Et pour se comprendre, eh bien, il faut déplacer son regard, il faut pouvoir voir le monde comme l'autre le voit. Et ça, c'est un travail qui n'est pas facile et que l'art peut faire. Et particulièrement, je pense, le documentaire, puisque le geste artistique du documentaire, c'est celui-là, c'est de faire un film dans la rencontre, avec la rencontre de l'autre. Donc c'est pour moi vraiment ce qui m'a donné envie de faire du documentaire et ce qui me donne envie d'en regarder, donc comme spectatrice et aussi donc comme réalisatrice. Voilà, si on ne fait pas cet effort de se comprendre les uns les autres, ben l'autre solution, c'est on crée un dieu, on crée une fiction commune à laquelle tout le monde obéit et se conforme, mais je crois que ce n'est pas forcément ce dont on a envie. Donc, si on ne veut pas ça, il faut faire cette rencontre de l'autre, et je pense que le documentaire, en déplaçant notre regard, en nous mettant à une place différente, nous permet ça. Alors, l'histoire du documentaire, en fait, on pourrait la raconter à partir de là. Il y a évidemment des tas de manières différentes de déplacer le regard, de se mettre à une place, déjà se mettre à un endroit où personne ne peut aller, en général. Par exemple, je ne sais pas, la prison, aller filmer dans une entreprise, l'entreprise c'est quand même un lieu où on n'a en général pas le droit d'aller. Aller filmer parfois dans certaines écoles, c'est compliqué aussi. Donc c'est aller dans un endroit comme ça interdit, non autorisé, ou bien aller dans un endroit beaucoup plus simple, tout à fait autorisé, mais d'une place que personne ne peut avoir. On peut citer par exemple les films de Wiseman, qui lui va aller comme ça faire une espèce de découpe des lieux et évidemment va nous montrer le lieu d'une place que personne ne vit. Ben, il va comme ça aller du haut en bas d'un édifice, du haut en bas, traverser une institution et aller dans tous les lieux. Et du coup, on va avoir une vision que personne n'a, sauf lui, à cette place de réalisateur. Ça peut être aussi suivre des gens, enfin filmer des gens pendant 25 ans. C'est les films de cette cinéaste. J'ai noté son nom parce que je ne m'en souviens jamais. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Peut-être l'un d'entre vous a vu ses films. Il y a une Elena Trestiskova. Il y avait une belle rétrospective à la Cinémathèque. Elle a fait des films avec des gens pendant 25 ans. Donc, évidemment, elle a plus de mémoire que les gens qu'elle filme. Ça peut être aussi, effectivement, faire un film avec quelqu'un sur une durée qui soit moins longue, mais dans une relation très forte qui permet que... C'est bien plus dynamique qu'un portrait, d'ailleurs, et de voir le monde à travers ses yeux. Enfin, voilà, il y a plein de manières possibles. Et donc le film que vous allez voir tout de suite là, dans quelques minutes, dans La Terrible Le Jungle, fait je trouve ça de façon très assez géniale. Alors c'est un film qui se passe dans une institution qui accueille des enfants déficients visuels et qui en plus sont en souffrance psychique, donc un lieu très très particulier et des enfants que certains appellent handicapés, qui est un mot terriblement laid, hein, puisqu'on a l'impression que les gens ont quelque chose en moins, ou quelque chose qui leur manque, alors que ce film, justement, va nous montrer à quel point ils ont quelque chose en plus, quoi. Et là, il y a un déplacement du regard absolument fantastique, joyeux, poétique, et très original. Voilà. Donc c'est avec une démarche qui entre fiction et documentaire, même si ces deux mots-là ne veulent pas dire grand-chose, mais enfin là, il y a un travail comme ça avec les gens qui à la fois parfois de l'ordre de la scène fictionnelle ou de la scène documentaire, on ne sait plus très bien. Voilà. Donc ce film, je vous propose de regarder ce film, puis ensuite, j'en dirai quelques mots, mais je ne vais pas... j'en dirai quelques mots sur la manière dont elles ont travaillé, peut-être vous aurez une ou deux questions. Ceci dit, je ne répondrai sûrement pas aussi bien que si c'était les réalisatrices. Et puis ensuite, moi, je vous parlerai, moi, je ferai un petit parcours de trois de mes films en partant de ce point-là, de comment, dans la pratique, j'essaie de déplacer d'abord mon regard pour déplacer le regard. Voilà. Donc, je propose qu'on passe le film. Voilà. Je ne sais pas si ce film a déplacé votre regard. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un a envie d'en dire quelque chose ou de justement à propos de ce déplacement du regard, l'expérience que ça vous a fait traverser ou pas. Non. Ok. Je trouve ça un film très très marquant dans son rythme et tout, donc après, on a un peu l'impression d'être encore dans le film, en fait, quand vous dites rien en plus. Bon. oui, donc, moi, ce film, qui est très étrange, hein, qui a vraiment qui est assez, dans sa forme, qui est assez étonnant. C'est vraiment par le travail de l'image et du cadre qui déplace quelque chose du regard par rapport à ces jeunes gens, puisqu'on a. Enfin, moi, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a une étrangeté, mais on ne sait pas très bien d'où elle vient. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle vient des adolescents. Si, en même temps, elle vient évidemment de la manière de filmer ce lieu, qui est comme une espèce de cité, de ville un peu imaginaire. On reconnaît bien sûr des signes d'une espèce de centre comme ça, mais en même temps il est filmé de telle manière, de façon très très frontale comme ça, avec ces arbres qui ont presque l'air faux, ces, ces murs aussi ont l'air, enfin, il y a une façon comme ça de mettre toujours des cadres très larges et de laisser aux adolescents la place totale, qui du coup crée une étrangeté dont finalement elle vient des enfants, enfin des adolescents, elle vient du cadre, et puis au fur et à mesure on a l'impression qu'ils sont les acteurs totalement investis. Et d'ailleurs plus le film avance jusqu'à la fin, hein, puisqu'ils sont tout à fait, on voit bien qu'ils sont tout à fait lucides sur le fait d'être filmés, et donc ils deviennent les acteurs de ce qu'ils sont, et on ne sait pas trop si on a été dupe de quelque chose, enfin là où ils jouaient ou là ils ne jouaient pas. Et là, à ce moment-là, ils déplacent complètement notre regard, puisqu'on se dit au fond, c'est eux qui mènent la danse, quoi. Leur différence, c'est eux qui nous la montrent et c'est eux qui en sont maîtres d'une certaine façon. Donc c'est là aussi, je trouve que le film joue sur travaille sur notre regard, parce qu'au départ on subit un peu la chose et puis petit à petit, enfin on est un peu peut-être même un peu gêné au début, et puis au fur et à mesure on se dit mais en fait c'est eux qui nous dirigent, quoi, c'est eux qui nous dominent d'une certaine manière, et ça c'est à travers ce travail de mise en scène, en fait, de pur cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Hein, ou... Ah, oui, enfin, il y a un micro, si vous voulez le micro. Et eux, ils sont beaucoup moins mal à l'aise que nous pour s'exprimer.
Oui, j'ai trouvé le film assez bouleversant. C'est difficile de parler après, effectivement. Moi, j'ai été frappé par ce que vous dites, on le ressent, je pense. Et j'ai été frappé par le temps qu'il faut pour rentrer dedans, en fait. Je crois que le déplacement du regard, c'est en fait de prendre du temps pour les regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui nous amène à... Il nous semble étrange au début et familier à la fin. On a un déplacement, nous, comme spectateurs aussi.
Oui, et je pense que par le montage aussi, il y a de plus en plus de scènes où on perçoit vraiment que c'est ces adolescents qui mettent en scène. D'ailleurs, le travail a vraiment été fait comme ça avec eux. Hein, c'est-à-dire que ils ont vraiment laissé les adolescents venir à elles. Hein, ceux qui avaient envie de travailler avec elles ont travaillé avec elles. Et chacun a eu un rôle s'est attribué le rôle qui lui convenait. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui est dans la chaise roulante et qui lit des histoires en plan très très large comme ça, elle s'était rendue compte que quand elles étaient près de lui, il n'arrivait pas à raconter des histoires alors qu'il adorait ça. Donc elles ont construit ce plan très large, lui ont mis un micro à chef. Et donc là, à partir de là, il avait très envie de raconter des histoires. Et donc souvent, elle le laissait partir, et des fois, elle le perdait complètement de vue, elle ne savait plus du tout où il était, quoi. Et elles allaient le chercher. Ben voilà, et donc elles ont construit une mise en scène aussi, à chaque fois, pour chacun d'eux. Alors, ça a été une évolution aussi. Elles aussi, c'était une expérience pour elles tout du long. La première fois qu'elles sont arrivées, je crois qu'elles n'ont rien compris à ces enfants. Puis au fur et à mesure, elles les ont compris. Elles ont vu là où ils avaient leur singularité, leur force, leur univers, leur capacité à s'emparer du cinéma. Chacun à sa manière. Par exemple, la jeune fille, celle qui a des lunettes et qui chante très très bien, elle leur avait dit, voilà, moi je suis aussi réalisatrice avec vous, et donc c'est moi qui vais mettre en scène les scènes. Et c'est elle en fait qui dirige de l'intérieur toutes les scènes de discussion avec les autres enfants. Voilà, donc tout le film a fonctionné comme ça, dans cette espèce de prise en main en fait de cet outil par les adolescents, sans essayer, et c'est là que je trouve très fort et assez osé et culotté, sans essayer de faire histoire, parce que c'est ça aussi le propre dans ce film, c'est qu'au fond ça fait pas histoire, il y a des choses qui se répètent, il y a des scènes de répétition de musique qui se construisent au fur et à mesure. Il y a des personnages qu'on retrouve, etc. Mais ça ne fait pas vraiment histoire, et elles n'ont pas essayé de forcer l'histoire là où ces enfants ne font pas histoire. Ils font histoire à l'intérieur des scènes, mais pas en dehors des scènes. Enfin, pas entre les scènes. Donc, elles n'ont pas essayé absolument de coudre ça. Elles ont plutôt fait un montage d'association qui nous permettent de rentrer de façon, à chaque fois dans chaque scénette, quoi. Donc il y a comme ça une structure un peu, mais malgré tout, qui évolue parce que quand même, au fur et à mesure, on comprend de mieux en mieux que c'est. Et là, je pense qu'il y a un petit retournement qui est fait quand même dans du fait du montage. On comprend de mieux en mieux que c'est quand même ces adolescents qui dirigent les scènes. Donc là, ça et parce que, comme vous dites très bien, nous aussi. À un moment donné, on se familiarise. Mais ça passe aussi par le fait, enfin, jusqu'à la fin, où les choses se retournent et on voit, on entend le coupé action. C'est toute une évolution, quoi, qui fait qu'à un moment donné, on se dit, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui dominent et pas nous, quoi. C'est là aussi que se situe donc ce déplacement. Donc là, moi, je trouve que c'est un film qui le fait de façon... très singulière, quoi. Moi, pour moi, c'est très très exemplaire dans sa démarche d'essayer de nous, dans l'expérience même du film, dans le regard même qu'on a sur le film du début à la fin, de déplacer notre regard, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez peut-être des questions dessus en plus. Bon, je peux pas vous en dire beaucoup plus ça, sur le travail, si ce n'est qu'il a duré très très longtemps, qu'elles ont tourné très longtemps, à peu près une semaine par mois, donc dans une connivence avec ces adolescents. Et je ne pourrais pas... Mais si vous avez une question, je peux peut-être quand même essayer d'y répondre.
Moi j'ai une petite question, enfin une intervention puis une question, sur qui découle aussi de l'intervention de monsieur. J'ai le droit d'enlever mon masque, c'est vrai. C'est intéressant dans le film, ce que tu dis, ça ne fait pas récit, enfin en tout cas il n'y a pas cette volonté de forcer un récit, mais que finalement le récit du film, c'est de créer un parcours possible pour chaque spectateur, justement, c'est-à-dire que tu as beaucoup parlé dans ton introduction, tu as parlé du point de vue du cinéaste qui déplace son regard, qui place son regard. Et puis aussi, finalement, ce que tu dis du film, c'est beaucoup de déplacer le regard du spectateur. Voilà. Donc je ne sais pas si...
Je pense que les deux vont ensemble, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu de ça dont je voulais parler après. Je crois que on peut pas construire un déplacement du regard dans un film si le réalisateur lui-même a pas vécu cette expérience, quoi. Ça commence par là. Enfin, le travail, c'est un peu de ça dont je voulais parler ensuite, sur le travail de. Enfin, que moi je fais à chaque film et que je pense que beaucoup de réalisateurs documentaires font, qui est on part d'un désir, d'une idée, et puis ensuite on peut avoir un savoir, mais enfin l'idée est quand même en repérage de se débarrasser d'un savoir pour essayer d'aller comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc en faisant ce repérage, puis le tournage, puis le montage, à chaque étape. On déplace comme réalisateur son regard, et c'est comme ça aussi qu'après le spectateur le vit. Enfin, pour moi, il y a une espèce d'équivalence entre les deux. Je différencie pas trop, finalement. Je pense que c'est l'expérience de l'un qui vient se construire dans le film et qui devient l'expérience pour le spectateur, quoi. Voilà.
Et qui est, je crois, quelque chose d'assez spécifique au documentaire, peut-être.
Complètement, oui.
Ce n'est peut-être la spécificité de ce double parcours.
Tout à fait, tout à fait.
Que le parcours du cinéaste est un petit peu celui qui est proposé au spectateur.
Voilà, oui. Ouais. Donc c'est un peu de ça dont je voulais parler après. Donc c'est différentes expériences que j'ai eues. Je voulais vous parler de trois films. Un qui s'appelle La loi du collège, qui est un feuilleton documentaire que j'ai tourné dans un collège, un autre qui s'appelle Entre nos mains, que j'ai tourné dans une entreprise qui essayait de se transformer en coopérative, et un autre, donc j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je voudrais savoir l'heure qu'il est pour un peu savoir comment je pour pas être trop... 4 heures déjà. Ouais, okay. Et le dernier, À ciel ouvert, qui est un film que j'ai réalisé dans une institution qui accueille des enfants en souffrance psychique, qui est orientée par la psychanalyse. Donc en fait, j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout parce qu'il fait écho à celui qu'on vient de voir. Voilà, c'est un peu une démarche que j'ai eue totalement différente de celle-là, mais où moi aussi j'ai essayé de déplacer le regard de tout à fait d'une autre manière sur ces enfants. Voilà. Donc je vais juste commencer donc par La loi du collège. La loi du collège, c'est un film où je voulais raconter des histoires autour de la discipline, hein, comment en fait, je voulais filmer ce lieu où les enfants sont socialisés. Où ils commencent vraiment à être socialisés, c'est-à-dire ils sortent de l'école primaire et là, dans le collège, on leur apprend vraiment la règle, les règles de comment on vit ensemble, et il y a tout un système de punition. C'est comme un microcosme de notre société, à l'image du fonctionnement général de nos sociétés. Et donc, je voulais voir comment était transmise la loi dans ces lieux-là. Évidemment, on a tous été à l'école, mais à une place bien particulière. On a tous été à l'école à la place de l'élève. Et j'avais envie de découvrir, évidemment, l'autre place. Ça, c'est quand même une... Je pense que le désir de documentariste n'est quand même à cet endroit-là, déjà au départ. C'est d'aller voir à un endroit où, normalement, on ne peut pas aller voir. Pour raconter donc ces histoires autour de la discipline, et sans a priori, en essayant d'oublier ce que moi-même j'avais vécu, je suis donc allée repérer, enfin, ce qui est quand même la phase première et fondamentale dans un documentaire, pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment ça se passe dans un collège autour de la discipline, comment les professeurs essayent de la faire respecter, quel panel de punitions ils mettent en place et comment ça vit. Voilà. Donc je suis allée visiter à peu près une cinquantaine de collèges pendant toute une année scolaire, et je me faisais raconter des histoires autour de ces problèmes de discipline, de comment, de la manière dont c'était réglé, et en essayant vraiment de me dégager de tout a priori, à vraiment essayer d'écouter, quoi. Et en écoutant, je me suis rendu compte que finalement à peu près tout le monde me racontait le même type d'année scolaire, c'est-à-dire toutes les années scolaires se passaient à peu près de la même manière. À savoir qu'au début, il y a quelques petits incidents avec quelques élèves. Au fur et à mesure, les incidents commencent à être de plus en plus graves. Les professeurs, avec leurs petites punitions du départ, ça ne marche plus. Du coup, ils commencent à réfléchir à faire un conseil de discipline pour donner l'exemple, hein, la punition comme exemple. Et puis, donc, il y a un premier conseil de discipline en général au mois de décembre, un ou deux, et puis quelques-uns au mois de janvier, et puis finalement, ça ne résout rien. Et du coup, il y a des punitions collectives qui se mettent en place pour toute la classe entière, des choses beaucoup plus comme ça qui nous font penser aussi à des punitions que l'on utilise plus généralement dans les rapports internationaux, par exemple. Et puis ensuite, ça ne se résout toujours pas. Et donc, en général, il y a une grève le mois de mars. Et puis, la grève, enfin, on fait appel au grand autre. Hein, donc puis la grève, malheureusement, on ne donne pas de moyens supplémentaires. Donc, les professeurs retournent au travail. Et puis finalement, c'est le printemps, c'est les conseils de classe. Et donc, bon, de fin d'année pour les passages. Et ça se recalme. Et puis, l'année suivante, ça recommence. Et au fait... Ce qui est très clair, c'est quels que soient les acteurs, que ce soit les professeurs, quels que soient les professeurs, quelle que soit l'équipe éducative, quels que soient les élèves, ça peut plus ou moins bien se passer, mais globalement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, au fond, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les professeurs et les élèves sont les acteurs d'une histoire qu'ils n'ont absolument pas écrite et qui leur sont imposées et auxquelles ils ne peuvent que très difficilement échapper. Donc à partir de ce constat, je me dis, bon, comment je vais raconter ça? Parce que au fond, ce qui va falloir qu'on voit dans ce film, ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas ce qu'on va voir, ce ne sont pas les professeurs, ce ne sont pas les élèves, il va falloir qu'on voit l'institution, il va falloir qu'on voit le scénario, au fond, le scénario qui leur est imposé du fait même de l'organisation de l'institution. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on voit au-delà de ce qu'on voit. Au-delà des gens, aussi formidables soient-ils, ou aussi, voilà, il va falloir qu'on perçoive ça. Donc, comment déplacer le regard, justement, surtout dans un lieu que tout le monde croit connaître, hein, parce que tout le monde croit connaître l'école, puisque tout le monde est allé à l'école, et tout le monde a des histoires à raconter sur l'école, et tout le monde a un ressenti, donc tout le monde sait ce que c'est que le collège. Bon, moi, je pense qu'en fait, on ne sait pas, mais parce qu'on n'est qu'à une place. Donc, le documentaire, justement, va permettre qu'on voit autre chose de ça. Donc, toute la question, du coup, est de se dire... De quelle manière raconter ça pour qu'on voit au-delà de l'apparence, d'une certaine façon. Et donc, je me suis dit que l'essentiel, ce serait surtout que le spectateur de la même manière que moi, quand on me racontait des histoires, ne soit jamais d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire, ou plus exactement, qu'il soit toujours d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre. C'est-à-dire... qui passe sans cesse du côté du professeur, puis du côté de l'élève, puis du côté du professeur, qui se disent « Ah non, mais là, le professeur a absolument raison. Ah mais non, là, non, pas du tout. La scène suivante, il faut que se dise que ce soit l'élève qui a raison. Et puis la scène suivante, ce sera le professeur. » Et que donc, finalement, ils se disent « Ça ne dépend pas des personnes. Il y a quelque chose d'autre qui est au travail derrière ça. » Et l'autre chose que je me suis dite aussi, c'est que ce serait important de filmer toute l'année scolaire pour... parce que si je prends un moment, le début... Il n'y a pas énormément de choses à résoudre, donc on ne voit pas la complexité. Si je prends trop en cours, on ne voit pas l'accumulation, c'est-à-dire tout le début de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, les professeurs sont à bout et décident de faire, par exemple, un conseil de discipline. Et donc, il est très important de filmer tout au long d'une année scolaire pour que, justement, on comprenne ce scénario à l'œuvre. Voilà. Donc, ces deux choses-là, ce qui sont... des choix déterminants dans la manière dont j'allais travailler, sont vraiment là pour permettre de déplacer le regard. Après, l'autre difficulté, c'est comment, à partir de là, convaincre un principal et une équipe éducative que je sois là toute une année scolaire, tout le temps, et que je puisse être dans différents endroits, mais en tout cas, possiblement, dans ceux que je choisis où je pense qu'il est important d'être. Par exemple, un conseil de discipline, par exemple, un conseil de classe, évidemment dans la salle de classe, etc. Quand j'ai fait ce film, c'était dans les années 92. Il y avait eu encore très peu de films de tourner dans les écoles. Il n'y en avait même pas. Donc, quand je suis allée voir l'inspecteur d'académie, il m'a dit, bon, écoutez, si vous trouvez un directeur suffisamment fou pour se laisser filmer comme ça, allez-y. Mais enfin, voilà. Il n'avait pas tout à fait tort, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un endroit où ils acceptent ma présence. Au départ, les gens étaient très contents, oui, c'est formidable, etc., mais il ne faudra pas aller dans tel endroit, mais il ne faudra pas aller à cet endroit. Or, moi, il est important que je puisse raconter des histoires dans tout leur développement et en passant aussi par, parfois, le conseil de discipline, etc. Et finalement, j'ai trouvé un endroit. Sur les 52, j'ai trouvé un principal qui a accepté. Et la raison pour laquelle il est accepté est intéressante parce que justement, ça concerne la place. C'est-à-dire qu'il m'a dit, voilà, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça va très, très vite. Chaque année, ça va très, très vite. Arrivé à la fin de l'année, je ne sais pas ce que j'ai vécu. Je ne comprends pas. J'arrive à la fin et je suis incapable de raconter ce que j'ai vécu pendant cette année scolaire. J'ai toujours l'aîné dans le guidon, les événements se bousculent l'un après l'autre, on arrive à la fin et voilà. Et il me dit, voilà, moi j'ai besoin qu'on me raconte cette histoire d'une place, justement, qui n'est pas la sienne et qui n'est pas celle de l'équipe, évidemment. Et du coup, il avait besoin de quelqu'un qui vienne filmer comme ça le quotidien et qui soit ni dans l'équipe éducative, ni un élève, ni l'éducateur, ni la, enfin, voilà, qui soit le réalisateur. Quoi. Et donc ça c'était cet enthousiasme qu'il avait, malgré les craintes que ça pouvait susciter, parce qu'il savait que ça allait être compliqué, a été à la base de la possibilité de faire ce film, ce qui fait que ça a entraîné tout le reste de l'équipe des professeurs et des élèves. Et donc après, dans cette institution, qui est une institution extrêmement figée, quand même un collège, chacun à sa place, hein, il fallait que moi je trouve la mienne, avec mon ingénieur du son, parce qu'on était deux, moi je fais l'image, une place à laquelle je puisse filmer ces histoires sans... en garantissant que je puisse rester une année scolaire, enfin, c'est-à-dire sans déranger, parce que si je dérange trop, c'est fini. Enfin, c'est un lieu où on peut très vite être éjecté. Il y a plein d'enfants qui se font éjecter chaque année parce que ils n'arrivent pas à s'intégrer dans ce lieu quand même extrêmement formaté, quoi. Donc ce qu'il fallait, c'est que chacun comprenne que j'étais ni d'un côté ni de l'autre. Et je vais vous raconter une anecdote que je trouve qui est très intéressante par rapport à ça et que les élèves, enfin où les élèves sont, je trouvais, ont été très fins. C'est que donc pendant les repérages, donc je suis allée passer dans toutes les classes, expliquer aux enfants et aux professeurs que donc j'allais pendant un an filmer toutes les histoires qui allaient avoir lieu autour des problèmes de discipline. Et donc que j'allais filmer dans les classes. Quand ils seraient convoqués dans le bureau de la conseillère d'éducation ou dans le bureau du principal ou avec leurs parents. Et puis, une fois que j'avais expliqué ça, je me mettais, vous voyez, comme si là, on était en cours, je me mettais là, devant, pour regarder comment ça se passait, le cours, et puis qu'ils me voient aussi, qu'ils puissent... voilà. Pendant un des cours, c'était un cours de technologie, il y a un professeur donc ce professeur se va dans son petit cagibi, il a rangé son matériel pour chercher quelque chose. Et puis là, il y a un élève du premier rang là, qui se lève et ça qui l'enferme dans le cagibi. Et puis alors le professeur, évidemment, tambourine à la porte, ouvrez la porte, etc. Tous les élèves se tournent vers moi. Moi, je dis rien. Le professeur continue et tout, puis bon, ça a duré comme ça 5 minutes, qui moi m'ont semblé extrêmement longues. Hein. Au bout de 5 minutes, quand même, il y a un élève qui s'est levé et qui lui a ouvert la porte. Et évidemment, question du professeur, question qu'on entend tout le temps dans l'école, c'est « qui a fait ça ?» Et là, tous les élèves se tournent vers moi et disent « Madame, elle a tout vu. » Ah oui, j'avais tout vu, effectivement, donc elle peut vous dire, elle a tout vu. Et ben là, j'ai dit non, moi je dirai rien. Je suis ni un élève, ni le professeur, ni le surveillant. Hein, je suis pas le surveillant, celui qui surveille, qui voit et qui punit. Je suis réalisatrice et moi je vais raconter des histoires. Voilà, je suis ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Et ça, je peux vous dire. Enfin, j'ai trouvé ça génial parce que ils ont fait en sorte de savoir qui j'étais et à quelle place j'étais. Place qui était fondamentale, parce que s'ils avaient imaginé, si je leur avais dit, évidemment, si j'avais parlé, si ou quoi, enfin bref, si même si j'avais ouvert la porte, je pense que ma place était foutue. Je n'aurais pas été à cette place qui m'aurait permis de justement faire en sorte qu'ensuite dans l'histoire, on soit d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre, et qu'à travers tout ça, on puisse voir l'institution. Voilà. Et donc j'ai trouvé les élèves absolument géniaux et je suis sûre qu'une fois qu'ils sont descendus en cours de récréation, ils ont raconté à tous les élèves l'histoire et qu'à ce moment-là, mon repérage était fait et bien fait, quoi. Parce qu'ils avaient compris ce que je voulais faire et il y avait une espèce de pacte tacite qui m'a permis de rester toute l'année. Je n'ai jamais eu aucun problème, ni avec les professeurs, ni avec les élèves. Même si je ne cache pas que des fois, j'avais envie d'aller défendre certains élèves ou d'intervenir de temps en temps, mais jamais je me suis permise de le faire pour pouvoir aller au bout de ce travail, quoi, de ce tournage, quoi. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, c'était pour un peu indiquer comme ça une première manière de faire, on va dire, de déplacer le regard pour essayer de raconter des histoires qui permettent d'aller au-delà de ce qu'on voit, au-delà des personnes, pour essayer de viser l'institution. Alors, je vais vous montrer un petit extrait qui, justement, est un peu frustrant parce que il faut voir l'ensemble du film. Mais dans cette scène, on a ce moment où on passe d'un point de vue à l'autre. Souvent, c'est devenu un feuilleton documentaire, hein, 6 fois 30 minutes. Souvent, c'est à l'intérieur même de chaque épisode que ce déplacement se fait, hein, ce déplacement du regard de chacun des protagonistes, mais qui permet en même temps, à la fin, de voir l'institution. Là, c'est à l'intérieur de la scène, donc c'est cette scène-là que j'ai choisi de vous montrer comme extrait. Voilà, donc on peut montrer l'extrait de la loi du collège, s'il vous plaît.
Ce soir, il y a conseil de discipline.
Mes sincères salutations distinguées.
Donc là, c'est dans la scène elle-même, hein, qu'on voit comment les choses, l'a priori, les a priori se déplacent. Bon, il faut bien voir que dans le film, ce principal et son équipe éducative, on les voit assez formidables. Évidemment, quand on arrive comme ça sur le conseil de discipline, on a tout de suite envie d'être du côté de l'élève. Mais quand on a suivi tout le feuilleton, on a vraiment envie qu'ils arrivent à trouver des solutions aussi. Enfin voilà, on est vraiment toujours pris entre ces deux, dans un mouvement comme ça d'aller-retour qui permet qu'à un moment donné on comprenne qu'au fond, quoi qu'ils fassent, ils sont bloqués par le fonctionnement de l'institution qui ne leur permet pas d'inventer de nouvelles règles, de créer quelque chose qui pourrait leur permettre de trouver des solutions adéquates et singulières par rapport à chacun des enfants. Voilà, donc ça c'était on va dire que c'est des lieux comme ça. La personne que j'avais filmée après au Courtil, donc l'institution qui accueille des enfants psychotiques, disait qu'il y avait des institutions paranoïaques et des institutions schizophrènes. Les institutions paranoïaques, c'est les institutions où en fait les places sont posées d'avance et dans lesquelles on ne peut absolument pas bouger en fait. Et les institutions schizophrènes, c'est les institutions justement qui s'inventent en recevant pour accueillir la différence et donc qui vont se transformer pour ça. Moi, j'ai fait beaucoup de films, en fait, au début, dans des lieux, des institutions, on va dire, paranoïaques. J'ai filmé en prison, j'ai filmé dans une télévision commerciale qui, d'une certaine façon, n'accueille absolument pas la différence. Donc, j'ai filmé, montré comment une télévision commerciale fait des programmes pour valoriser des espaces publicitaires, donc dans une espèce de mécanique très forte. Voilà, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de après avoir fait un autre film qui s'appelle Histoire d'un secret, dont je ne vous parlerai pas là, mais j'ai eu envie de filmer justement dans des, enfin je ne les appelais pas comme ça, des institutions schizophrènes, enfin en tout cas des endroits où les gens pourraient changer de place et où moi-même aussi je pourrais changer ma place en tant que réalisatrice. Donc ne pas être dans cette position-là. Donné quand même par le lieu, imposé par le lieu, mais où je puisse moi aussi l'inventer et la réinventer et au fur et à mesure du tournage. Donc j'ai eu envie d'aller filmer des gens qui changent leur monde sans attendre le grand soir. Donc j'ai cherché, j'ai visité des communautés, un jour j'ai lu une brève dans un journal qui parlait d'une coopérative dans laquelle les ouvriers étaient particulièrement heureux de travailler du fait que ce soit une organisation de coopérative. Et je me suis dit, ben voilà un lieu où finalement, en changeant l'organisation, les gens arrivent à trouver une nouvelle manière de vivre, se réinventent leur quotidien, et je vais aller voir là. Donc j'ai visité énormément de coopératives, et je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin je vous passe les détails, il y a du repérage, etc. Enfin, et finalement j'ai décidé donc de filmer une entreprise qui essaie de se transformer en coopérative, pour filmer ce processus de transformation, ce déplacement, on pourrait dire, du regard que les gens ont sur eux-mêmes et qui fait qu'à un moment donné, ils vont oser devenir les propriétaires et les actionnaires de leur propre entreprise et devenir leur propre patron. Parce que ce que j'avais constaté en écoutant les salariés, c'est qu'au fond, là encore, hein, le scénario, c'est pour ça qu'on peut faire des documentaires, hein, parce que le réel se répète. Il se répète en macro et en micro. En micro, parce que quand on discute, souvent on répète les mêmes choses. J'ai déjà dû répéter plusieurs fois la même chose moi-même, là. Et puis en macro, parce qu'effectivement, on retrouve des scénarios. Et donc, en général, ce qui se passe, bien sûr, il y a des variantes, hein, heureusement, mais c'est que les salariés, au moment donc, où il y a une entreprise qui fait faillite et où ils décident, où les cadres, parce qu'en général, c'est les cadres qui pensent à ça, se disent, tiens, si on transformait notre entreprise en coopérative, si on la rachetait d'une certaine façon, pour devenir maître, nous, de cette entreprise. Et donc, au moment où ils vont en parler à l'ensemble des salariés, en général, ce qui se passe, c'est que les salariés, d'abord, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils se sentent impuissants, incapables, dans l'incapacité de diriger une entreprise. Ils pensent que le savoir, c'est le patron qui l'a et qu'on n'a pas ce savoir-là. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autres salariés avec qui ils travaillent. Et voilà, donc ils se disent, on ne va pas y aller, quoi. On ne va pas mettre un mois de salaire, parce qu'il faut mettre un mois de salaire. On ne va pas mettre un mois de salaire dans cette chose, c'est trop risqué, c'est trop de travail, et on ne sera pas capable. Et puis au fur et à mesure qu'ils réfléchissent à ça, qu'ils se réunissent et tout ça, petit à petit, ils commencent à connaître les autres salariés avec qui ils travaillent, ils commencent à comprendre les choses. Et puis, bon, en plus, il y a des gens d'une... qui s'occupent comme ça des coopératives dans le, qui viennent un peu les aider, les former. Et au fur et à mesure, ils se disent, mais en fait, si on est capable, on peut y aller. Et bon, quand ça se passe bien, hein, ils rentrent, ils créent la coopérative. Et puis ça les transforme vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'ils, tout d'un coup, ils se disent, mais oui, on est capable, on n'a pas besoin de patron. Et ça leur donne une espèce de renaissance d'une certaine façon. C'est d'une émancipation, une renaissance absolument formidable, et qui fait que même certains disent que le rapport dans leur couple change, leur rapport au monde, leur rapport à la politique, enfin voilà. Et donc c'est cette transformation intime que moi j'avais envie de filmer, en pensant aussi que forcément ma place à l'intérieur de ce tournage allait aussi se déplacer. Voilà. Donc pour pouvoir filmer ça, il fallait que j'arrive... au tout début, tout début, la première fois que les salariés entendent parler d'une coopérative, donc je me mette à l'endroit où je sois en fait un peu en avance sur l'ensemble de l'histoire, que je puisse vraiment être en avance par rapport à eux pour pouvoir saisir les premiers moments, parce que la transformation, il fallait que ça commence vraiment là, quoi. Donc j'ai contacté les antennes régionales en leur expliquant mon projet. De façon à ce que dès que des cadres les appellent parce qu'ils voulaient transformer leur entreprise en coopérative, de façon à ce qu'ils m'appellent. Et à ce moment-là, j'arrive et je commence à filmer, sans avoir parlé aux gens, sans avoir, dans un geste qui n'est pas du tout habituel chez moi, puisqu'en général, j'ai plutôt envie de parler beaucoup aux gens avant de commencer le film. Mais là, il fallait que je commence le film dès ce premier jour où les salariés entendraient le mot coopérative et se demanderaient ce que c'est et auraient peur et voilà. En plus, ce sont des toutes petites scènes, ce sont des choses, si on n'a pas un peu repéré avant, enfin pas mal repéré et compris ce qui allait se mettre en place, on ne peut pas les voir, parce que ça passe très très vite, et on peut se dire, bon, je le filmerai dans une semaine, mais une semaine après, c'est fini, ils en sont déjà à la phase suivante, puis après, voilà, c'est une transformation, donc il faut être là, vraiment, aux moments cruciaux, qui sont des petites scènes, qui ont lieu de façon assez... voilà, qui vont durer 5 minutes dans une journée. Vous voyez, c'est quelque chose de très... Donc, il faut être vraiment très, très à l'affût et donc avoir pu anticiper le scénario pour être à la bonne place, quoi. Et donc, je suis arrivée... Bon, après avoir vu plusieurs entreprises qui essayaient de se transformer en coopérative, finalement, je me suis installée dans une qui était une entreprise de lingerie féminine. Et effectivement, les premières scènes que j'ai filmées avec les femmes, première réunion, elles entendent parler de la coopérative. Et juste après, enfin très rapidement, c'est tout de suite, mais comment ? Il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on paye pour travailler. Et puis moi, je n'ai pas confiance dans les autres. Et puis, on sentait la peur et le sentiment d'incapacité. Et puis, de toute façon, on n'y connaît rien, on est nul, enfin, on ne peut pas. Enfin, voilà, dans une espèce de position comme ça de d'infériorité. Et là où c'était intéressant, c'était aussi une position comme ça par rapport à moi. Comme je ne les connaissais pas, j'étais un peu obligée de leur tirer les vers du nez, de les faire parler. Il n'y avait pas de complicité. Puisque, voilà. Et au fur et à mesure, donc je suis restée 3 mois, j'ai filmé tous les jours, j'arrivais en même temps qu'elles au travail. Donc le 3e jour, elles se sont dit « mais qu'est-ce que vous faites encore là ?» Ben, j'aurais dit « mais oui, je vous expliquais, je vais venir longtemps. » Alors elles me disaient « mais nous, on n'a rien à dire, on n'est pas intéressante, notre histoire n'a aucun intérêt, une coopérative, ça n'a aucun intérêt. » Enfin, il y avait une dépréciation comme ça totale à la fois d'elle-même et de l'histoire dans laquelle elle était. Alors que moi, je savais bien que cette histoire, elle allait être passionnante, mais elle ne le savait pas encore. Et puis au fur et à mesure... à la fois parce que je passais énormément de temps dans cette entreprise avec elle, tous les jours, que je parlais avec elle, que je filmais très très peu, hein, c'est vraiment, j'ai jamais aussi peu filmé, parce que c'est des toutes petites scènes, mais je voyais bien que quelque chose se transformait à la fois entre elles, et puis se transformait aussi dans le rapport au film. C'est-à-dire qu'alors qu'au début, j'étais obligée un peu d'être... à la place de l'intervieweuse, place que je n'aime pas du tout, enfin qui est vraiment, petit à petit... ça s'est justement renversé. C'est-à-dire que c'est elle qui venait me chercher. Et elle me disait, Mariana, on a quelque chose à raconter, on a quelque chose à dire. Il y a même eu une fois, où il y a, enfin même plusieurs fois, où je passe dans un couloir et puis il y en a une qui, une salariée qui vient me chercher, elle me dit, ah, là on a eu une super discussion autour de la coopérative et vous n'étiez pas là, quoi. Je dis, bah ouais, mince, c'est pas grave, on vous la refait. Et elles ont refait la scène. Tellement elles étaient, à un moment donné, voilà, elles avaient conscience, quelque chose se transformait dans la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes, dans la perception qu'elles avaient, enfin, par le fait de faire la coopérative, bien évidemment, et aussi par le fait de ma présence et de ce qu'elles percevaient de ma présence et du film, quoi. Elles avaient envie de participer à cette histoire, elles la vivaient et elles avaient envie de la raconter. Et donc, ces femmes qui, au départ, n'étaient pas du tout politisées, mais pas du tout, même que quand j'étais arrivée dans le lieu, je me disais quand même, ça aurait été bien s'il y en avait quelques-unes, etc. Mais bon, c'est, par ailleurs, c'est un lieu formidable. Donc, et puis ces femmes, voilà, il y avait plein de choses, plein d'intérêts dans cet espace, enfin, dans cette entreprise. Mais ces femmes qui n'étaient pas du tout politisées, en fait, au fur et à mesure, elles se sont politisées de façon... par la pratique, par le... Voilà. Et malheureusement, donc la coopérative, elle l'a créée. Enfin, je vous raconte l'histoire. Hein. La coopérative se crée, ces femmes se transforment, elles ont décidé d'y aller, chacune y va et tout. Elles vont mettre un mois de salaire, elles sont prêtes et ça. Le patron, lui, qui était complètement resté en dehors, comme il voit que la coopérative, ça marche, il veut rentrer aussi dans la coopérative. Les salariés, elles n'ont pas du tout envie que le patron rentre parce que elles ont, alors qu'au début, le patron, c'était... il était dans toute sa toute-puissance, là, elles ont renversé le regard, et donc elles n'ont pas envie du patron, et leur patron, enfin, le patron, du coup, fait, enfin, c'est une supposition, mais il semblerait qu'elle soit juste, a fait en sorte qu'elle perde le client principal, et donc la coopérative ne peut pas se faire, non pas pour des raisons humaines, mais pour des raisons économiques, elle ne peut pas se faire. Et là, ce qui est très étonnant, et c'est que les femmes m'ont dit, voilà, nous, on a, c'est surtout des femmes, je dis des femmes, nous, on a vécu les 3 mois les plus beaux de notre vie de salariés. Donc nous, on ne veut pas que le film se termine tristement, comme on voit à la télé, les gens qui pleurent, etc. On sait qu'on va être au chômage, on sait que c'est terminé, qu'on ne va pas faire la coopérative, mais nous, on a envie que les autres qui voient le film, que les spectateurs qui voient le film, ils aient envie de faire comme nous une coopérative. Donc on voit là à quel point elles se sont politisées, c'est-à-dire que là, les autres, c'est plus important qu'elles. Enfin, je veux dire, elles ont une image, enfin, elles ont une vision comme ça, une vision du monde qui ne s'arrête pas à leur destin particulier ou à le destin de leur entreprise. Elles ont envie de raconter quelque chose aux autres. Et là, elles m'ont dit, Mariana, il faut que vous trouviez une solution pour que la fin ne soit pas triste. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir le temps que quelle fin on pouvait faire pour raconter, voilà, et je vais vous la montrer.
Le poulet que tu devais amener.
Oui, mais moi je veux bien, mais après tout le monde rigolait.
Michel ! Oh, ils ont une belle vue là.
Voilà, donc. Donc, dans ce film, en fait, ce qui est. Enfin, moi, j'avais envie donc de filmer, c'était vraiment la transformation intime, ce qui est difficile qui est quelque chose qui est, j'avais imaginé tourner sur plus un ou deux ans en fait, quand la coopérative aurait été créée, et comme la coopérative se crée pas, je m'étais dit bon bah ça va peut-être pas se voir, et finalement. Finalement, ça se voit parce que ces femmes changent tellement aussi face à la caméra, dans leur place justement dans le film, que ça raconte cette transformation-là, parce que je pense qu'elles se sont transformées face à la caméra parce qu'elles se transformaient dans l'entreprise. Quoi. C'était vraiment... et c'est là que c'est intéressant, c'est que dans un lieu où justement je pouvais changer de place et avoir des rôles, un rôle différent, parce qu'au départ j'étais un peu cantonnée parce qu'elles ne me connaissaient pas et puis parce que j'avais pas pu... dans l'entreprise telle qu'elle était, très... très figée, aller beaucoup plus loin. Au fur et à mesure qu'elles prennent le pouvoir dans l'entreprise, je peux avoir plus de place. Et du coup, c'est aussi ce changement-là qui permet que quelque chose se raconte d'elles et que notre regard sur elles et le regard sur elles-mêmes changent. Et donc, cette comédie musicale que je leur ai proposé de faire, c'est parce que comme elle me disait qu'elle voulait que la fin ne soit pas triste, enfin qu'on soit pas juste dans la déception. C'est vrai que quand on voit le film arriver à la fin, on est vraiment déçu, ça marche pas. Je m'étais dit bon, je vais pas leur demander de dire ça comme ça, ça sera pas assez fort. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de registre. Et donc je leur ai proposé d'écrire en une chanson qui raconterait ce qu'elles ressentaient. Et que moi, je trouverais un musicien pour très rapidement le mettre en musique et leur faire chanter cette chanson. Quoi. Elles ont trouvé l'idée formidable. Et donc, c'est elles qui ont écrit les paroles et qui ont... Et après, on a donc filmé pendant 3 jours cette mise en scène où évidemment, elles ne sont plus du tout à la même place qu'au départ. Hein, qui a été 3 jours. Enfin, ça a été 3 jours absolument extraordinaires parce que ces femmes donnent vraiment... chacune donne... une voix, hein, donc c'est pas une voix comme dans la coopérative, une personne, une voix, un vote, mais chacune donne de la voix pour donner sens à ce qu'elles ont traversé, quoi. Voilà, donc ça c'était comment en se déplaçant, donc évidemment à la fin je suis plus du tout à la même place qu'au début, hein, quand je commence le film, quoi. Je deviens un peu voilà, en tournant cette comédie musicale, c'est presque une scène de fiction, quoi. Mais comment ce déplacement de ma place à l'intérieur de l'entreprise permet de raconter quelque chose de leur transformation. Et ensuite, donc, le troisième exemple qui va faire écho avec ce que vous nous venez de voir au début, enfin le film Dans la terrible jungle, c'est que donc, j'ai eu envie à un moment donné donc de filmer ce qu'on peut appeler la folie, je préfère le mot la folie que handicap, et j'ai cherché un lieu où je puisse comprendre, hein, dans cette obsession que j'ai de comprendre l'autre et de voir à travers les yeux des autres, j'ai eu envie donc de trouver un lieu où je puisse commencer à comprendre quelque chose, même si je sais bien qu'on peut pas tout comprendre de ce qu'on peut appeler aussi des psychotiques ou des autistes. Et donc j'ai cherché cet endroit et j'en ai vu plusieurs qui me décevaient parce que je trouvais que justement ils essayaient pas de voir le monde autrement. En tout cas, ils plaquaient sur ces enfants leur vision, leurs critères, leurs qualificatifs, même s'ils étaient extrêmement bienveillants, je trouvais que c'était pas, ils m'aidaient pas à comprendre et que j'arrivais pas dans ces lieux à comprendre. Et puis un jour, je suis arrivée dans un endroit qui s'appelle le Courtil, qui se trouve en Belgique, mais juste à la frontière française, et qui est orienté par la psychanalyse. J'y allais pas avec, j'avais aucun a priori sur la psychanalyse, hein, je suis pas une spécialiste du tout. Mais donc je suis allée voir, et là j'ai été absolument, ça a été une espèce de bouleversement. Parce que c'est un endroit où ils considèrent chaque enfant, parce qu'ils accueillent surtout des enfants, chaque enfant comme une énigme à comprendre. C'est-à-dire, et c'est là qu'ils ont utilisé le mot d'institution schizophrène, c'est-à-dire qu'ils accueillent la différence de chaque enfant et ils essayent de trouver avec chaque enfant sa solution singulière qui va lui convenir à lui. Et pour trouver cette solution, ils sont dans une espèce de donc ils vivent avec eux tous les jours, ils dorment là, enfin c'est... Mais ils sont dans une espèce d'observation active, ils font des choses avec eux pour essayer de comprendre ce qui fera du bien à chacun et quelle est la structure, la manière dont ils voient le monde, la manière dont ils perçoivent l'espace, la manière dont ils perçoivent le temps, la manière dont ils perçoivent leur corps, la manière, voilà, pour chacun de façon singulière. Ils n'essayent pas du tout de leur inculquer une manière d'être, une manière de faire ou de leur apprendre, enfin, comme pourraient le faire des comportementalistes par exemple, non, ils essayent vraiment de rentrer dans la singularité de chacun et par une espèce dans une interrelation et une observation. Donc quand je suis arrivée dans cet endroit, j'ai rien compris. J'ai rien compris aux enfants et j'ai rien compris à leur travail. Ça a été, par exemple, je vous donne juste un exemple. Première petite fille que je vois, elle s'assoit à côté de moi, elle est très gentille, très tendre, etc. Bon, super, je me dis... Voilà, après, elle va jouer. Bon. Et puis, 10 minutes après, on rentre dans la cuisine. Et là, elle prend tout ce qu'il y a sous la main et elle me les lance. Elle lance la farine, elle lance les fourchettes, les couteaux, voilà, tout. Elle devient extrêmement violente. Donc là, je vais voir l'intervenante, un peu interloquée. Hein. Je n'avais pas de caméra, bien sûr. C'était début des repérages. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Cette petite fille était très, très tendre, très gentille. Puis là, elle est très violente. Et puis là, elle me dit, bon, elle n'était ni gentille. Et là, elle n'est pas violente. Ce n'est pas du tout ça. Alors, je t'explique. Alors, rapidement, elle me fait un... Ils n'ont pas fait souvent de m'expliquer de cette manière-là, mais c'était juste pour me dire, voilà, elle a un problème, elle n'arrive pas à se détacher des gens, à se dire, ben moi je m'arrête là et l'autre commence là, la relation à l'autre étant évidemment ce qui est très compliqué pour ses enfants. Et du coup, elle se colle à toi et à un moment donné, comme ça lui est insupportable, elle jette des choses pour se détacher de toi. Voilà, elle me fait un résumé pour juste que je me dise bien qu'il ne faut pas que je plaque ma manière de voir sur ses enfants. Et en fait, tout le travail que... Donc, je partageais le quotidien avec ses enfants, avec ses intervenants. J'assistais à tous les ateliers, dans les repérages, etc. Et puis après, j'assistais aux réunions qu'ils font ensemble pour essayer de raconter ce qu'ils voient. Ils racontent. Et puis, au fur et à mesure qu'ils racontent, ils voient les choses autrement. Et ça, j'ai trouvé passionnant. Parce que là, on assistait vraiment, en direct, au déplacement du regard. Et c'est pour ça que ce lieu, je me suis dit, ils font la même chose que ce que j'essaye de faire en cinéma, c'est-à-dire ils essayent de déplacer le regard et de voir, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le collège, de voir au-delà de ce qu'on voit. C'est-à-dire on voit quelque chose, mais ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on voit. Et il faut voir autre chose, quoi. Il faut voir la structure singulière de chacun de ces enfants. Et donc ça, c'est un exercice absolument extraordinaire qui, moi, m'a complètement fascinée. Donc ce qui m'a fascinée, c'était à la fois ces enfants... de les comprendre, d'arriver dans le film à les faire, à faire en sorte que le spectateur va déplacer son regard sur ses enfants, de vraiment qu'ils vivent l'expérience que j'ai vécue, et qu'en même temps, ils vivent le moment même où le regard peut se déplacer. C'est-à-dire que je voulais à la fois que le spectateur ait vu une scène et qu'ensuite, en écoutant les intervenants, non pas qu'ils aient la vérité, les intervenants, de toute façon, ils ne pensent pas qu'ils l'ont et elle change tout le temps, cette vérité, mais qu'en écoutant les intervenants, ils se mettent à regarder autrement et qu'au fur et à mesure du film, ils aient vraiment cette expérience extrêmement précise du moment même où le regard se déplace. Voilà. Et donc, je me suis donc installée avec ma caméra... Alors, pour filmer les enfants, je filmais seule. Hein, je m'étais installée à harnacher la caméra pour que, comme la question de l'autre, c'est vraiment leur question, le rapport à l'autre. Donc, je voulais qu'ils aient une relation avec moi très, très précise. Donc, on m'a accueillie comme une intervenante à caméra. J'étais absolument libre. Ma place n'était pas définie. Hein, je n'étais pas la Sina. J'étais là. J'avais une caméra. Il s'avère que j'avais une caméra. Et les enfants pouvaient faire avec moi... Voilà, il y allait avoir des choses, je ne savais pas ce qui allait se passer, c'est un lieu parfaitement imprévisible puisqu'ils n'ont pas ils inventent des choses au fur et à mesure, donc avec moi ça allait aussi s'inventer pendant le tournage et ça c'était absolument passionnant, c'est là que je ne savais pas du tout ce qui allait arriver, quoi. Et je filmais en parallèle de ce quotidien avec les enfants et de cette relation qu'ils avaient avec moi, je filmais aussi les intervenants en espérant que dans le film je puisse... par des allers-retours comme ça, déplacer le regard du spectateur et que filmer ce moment-là, que le spectateur soit saisi par le moment où tout d'un coup, il voit autre chose que ce qu'il a cru qu'il avait vu. Voilà. Donc, je vais vous montrer un extrait qui est... en général, les scènes ne sont pas mélangées comme ça. Là, vous allez voir, c'est une très très large réunion où là c'est toute l'institution qui est réunie dans le film. En général, c'est beaucoup plus intime que ça, mais bon, j'ai pris ce moment-là parce que vous allez voir, il parle du cadre et ça fait tout à fait écho à ce que vous avez vu dans la terre de le jungle. En fait, ça c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Voilà. Donc on le regarde et puis après, si vous avez des questions générales sur tout ce qui s'est dit, on pourra discuter. Voilà. Donc on peut passer les alors en fait c'est trois extraits hein, qui vont être séparés par un petit bout de nous, enfin on va faire juste 30 secondes de pause pour aller, voilà, c'est trois extraits différents du film, donc j'ai choisi que une en fait il y a plusieurs personnages dans le film et là j'ai choisi de regrouper trois extraits qui concernent la même petite fille. En général, dans le film, il n'y avait pas. C'est la seule fois où il y a une juxtaposition comme ça de ce qui est dit et des enfants. Hein. C'est plus. Enfin, voilà, c'est la seule fois parce que bon. Mais durant 1h45, c'est plus espacé. Enfin, c'est pas aussi démonstratif. Là, c'était un petit peu. La manière dont on avait réussi à faire comprendre ça, parce que c'était un peu plus pointu, on va dire, encore par rapport aux autres analyses. Voilà. Mais voilà, donc cette petite fille qui au fond, pour qui la caméra, hein, le cadre vient rassembler son corps, hein, puisqu'en fait, on voit d'autres moments, hein, y a plein d'autres moments, on la voit, elle regarde sa main comme si c'était pas sa main, elle regarde. Donc c'est son corps était comme il disait mietté, enfin c'est ne fait pas un quoi, hein, ce qui et le cadre cette petite fille pendant les repérages elle était toujours assise dans un coin, elle bougeait pas, elle était assez amorphe, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à filmer, il y a quelque chose qui s'est passé, elle a commencé à montrer des objets dans le cadre, à ce moment-là elle a saisi quelque chose du cadre, et puis après ça a été son corps, et puis après elle s'est mise à courir, elle s'est mise à, enfin d'abord à marcher comme ça, à se promener, à courir, enfin c'est assez, assez extraordinaire ce qui s'est passé par le cadre. Et évidemment quand j'ai vu dans La Terrible Jungle cette fonction du cadre qui rassemble ses enfants et qui fait que je pense ça a aussi mis en mouvement ses enfants, et ça fait qu'ils sont rentrés dans ce film de Omblin et Caroline, parce que justement le cadre a cette fonction de les rassembler. Hein, et comme il dit très bien le psychanalyste, ça ne fait pas forcément écriture, donc ça ne fait pas forcément récit, hein, ça ne fait pas forcément trace dans le temps, mais à un moment donné, ça permet de les rassembler. Voilà. Alors dans ce film, c'était vraiment. Il y a plusieurs personnages, hein, y a 4-5 enfants, enfin personne, 4-5 enfants, et on a vraiment l'occasion de voir une chose, et puis ensuite de le voir autrement. Quoi. C'est sans cesse, le film travaille là-dessus, sur ce déplacement du regard, qui est un petit peu mon obsession. Voilà. Et ce dont je voulais vous parler. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si vous avez la possibilité de poser quelques questions sur les différentes choses qu'on a vues, sur ce que ça vous évoque.
Il est 17h, mais on a commencé avec un peu de retard. Donc
moi, il n'y a pas de souci, hein, si vous avez des questions.
Si vous avez des questions, donc une là-bas.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour la diffusion de ces extraits et aussi du premier film. J'aimerais intervenir pour deux éléments déjà, ce que vous dites à propos de ce déplacement du regard. Effectivement, on est amené à changer notre propre regard en fait sur les différentes prises, le cadre qui se déplace, etc. Mais en fait, ce que vous dites pas explicitement, mais qui au final est formulé dans vos propos, c'est que les enfants changent leur propre regard de leur situation en étant justement face à la caméra. Et moi, c'est ça que je retiens le plus quand vous faites le lien au final entre Dans la terrible jungle et le dernier extrait que vous nous avez montré. Voilà, donc pour cela, merci beaucoup. Et ma deuxième intervention, bon, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec ça, mais comme vous êtes documentariste, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. Vous avez vous avez dit une chose au début de la rencontre qui m'a mis la puce à l'oreille. Vous avez dit, les documentaristes sont souvent à la recherche de ce qu'on ne peut pas montrer, ce vers quoi on n'a pas accessible d'ordinaire. En lien avec ça, est-ce que vous avez rencontré des institutions, est allé sur des terrains où on vous a d'abord accueilli et puis au final, en fait, après la diffusion de votre film, on vous a dit non, ça ne nous plaît pas, on va vous poursuivre ou alors on vous menace ou alors il y a des... Ça ne nous plaît pas ce que vous avez montré parce que, je ne sais pas, vous avez montré telle petite fille dénudée par le haut, vous avez montré telle... Je ne sais pas, il y a des choses qui frappent en fait, qui sont marquantes et ces institutions ne s'étaient pas imaginées que ça allait passer à la caméra. Comment est-ce que vous faites du coup dans ce cas-là ?
Non, mais ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce que vous avez mis le doigt sur une chose très importante. Bon, c'est quand même très bref, hein, le temps qu'on avait pour discuter là et tout. Et c'est vrai j'ai pas dû assez parler de ça. C'est que les gens se transforment en étant filmés aussi. Enfin, bien évidemment. Enfin, c'est-à-dire la relation qu'on a avec eux, le film, on le fait avec eux. Et donc il y a a priori aucune raison qu'à la fin ils soient. Ils refusent le film. Alors, Ça, je parle des gens qui sont filmés. Effectivement, l'institution elle-même pourrait le refuser, parce que l'institution, elle n'a pas vécu ça, et puis effectivement, elle peut avoir ouvert ses portes, et après, voilà. Donc ça... par exemple, les coopératives, enfin l'organisme qui s'occupe des SCOP, d'un point de vue institutionnel, ils n'ont pas tellement voulu promouvoir le film Entre nos mains. Pourtant, moi, je trouve que c'est une magnifique hommage aux coopératives, mais parce que ça n'a pas marché économiquement, eh ben, ils disent quand même, c'est pas un bon exemple. Voilà, donc le film est bien, mais nous, on veut une entreprise qui fonctionne et comme à la fin ça ne marche pas, on n'en veut pas. Voilà, ce qui est complètement absurde et ce qui ne gênait pas du tout tous ceux qui avaient participé au film, bien évidemment. D'ailleurs, tellement ça ne les gênait pas qu'elles ont voulu cette fin gay, mais l'institution n'avait pas traversé justement cette expérience. Elle était restée à l'extérieur. Enfin, voilà, et les responsables de cette organisation qui aide les coopératives à se mettre en place n'ont pas vraiment approuvé le film, quoi. Voilà. Donc oui, il peut y avoir une dichotomie, il peut y avoir un refus institutionnel parce que c'est effectivement pas les gens qui ont participé au film. Et de ce fait-là, ils n'ont pas traversé cette expérience. Ils peuvent la rejeter, quoi, en rejeter le résultat.
Merci de votre présentation. Je voudrais savoir un peu plus justement sur le travail de repérage. Enfin, quel est le moment de passage entre le repérage et le tournage? E aussi savoir le moment de détachement. Comment sortir, arrêter le filmage et sortir de ce contexte-là, en plus des institutions si marquées, enfin, des contextes si particuliers comme ce que vous avez montré?
Le repérage, je trouve que c'est un moment essentiel. Il y a un film que j'ai fait sans repérage qui s'appelle L'Assemblée, qui était sur le mouvement Nuit Debout. Donc là, c'était vraiment, mais bon, c'est un peu à part. C'est un moment c'est un moment qui permet de comprendre le lieu où on va filmer, qui permet de comprendre les scénarios possibles. Qui permet de mettre en place la manière dont on va travailler, sur quelle durée, est-ce que c'est sur 3 mois, est-ce que c'est sur 1 an, est-ce que c'est une fois par semaine, est-ce que c'est qui permet d'imaginer l'organisation qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on va tourner seul? Est-ce qu'on va tourner avec un ingé son? Est-ce qu'on va tourner avec quel type de caméra, quel type de matériel? Qui permet de rencontrer les gens, d'établir avec eux un espèce de contrat tacite, qui n'est évidemment pas écrit, hein, mais où ils comprennent le film qu'on veut faire, ou en tout cas une partie du film qu'on veut faire, le début du chemin qu'on veut faire. Voilà. Et puis à un moment donné, qui permettent aussi de trouver les éléments qui vont permettre de convaincre les financeurs, faut quand même pas l'oublier. Et puis évidemment, l'idée, c'est qu'une fois que tout ça est prêt, on commence à filmer, et là, ce qui arrive, c'est évidemment pas forcément ce qu'on a imaginé, c'est autre chose, et il faut être ouvert à cet imprévu, enfin à ce qui va arriver, et qui vient peut-être même aller à l'encontre. Par exemple, pour Entre nos mains, je pensais tourner 1 an, 2 ans, et finalement je me retrouve à tourner 3 mois avec une entreprise qui finalement ne devient pas coopérative, etc. Mais l'essentiel va se raconter quand même. Donc le repérage, je pense qu'il est, enfin, il est absolument fondamental. Il y a des en tout cas pour moi, parce que j'aime aussi raconter des histoires, et que pour raconter des histoires, il faut que je puisse en repérer les possibles. Sinon, il faut que je puisse anticiper quand même un peu. Même anticiper pour pouvoir me laisser surprendre, mais anticiper quand même. Voilà. Si par exemple, je n'ai pas fait des repérages sur les coopératives, le moment où les 3 moments très brefs où elles parlent de leur peur, ces femmes, hein, je les aurais pas vraiment fait attention. J'aurais été trop dans le... Enfin voilà, d'abord, je n'aurais pas su regarder, je n'aurais pas su où aller filmer. Enfin, il faut quand même avoir un peu une idée de, même si après, évidemment, les choses vont bouger et il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues. Et même dans l'institution, par exemple, où j'ai filmé à ciel ouvert, qui est une institution où on peut absolument rien prévoir. C'est-à-dire qu'ils mettent en place un truc et ils font exactement l'inverse et on ne peut, c'est pas ce qui va arriver aux enfants. Donc tout s'est fait, je dirais, dans l'après-coup. Le film, c'est globalement écrit dans l'après-coup, c'est-à-dire au moment du montage. Le moment du montage a vraiment été, c'est là que j'ai vu comment pouvoir raconter tout ça et que j'ai compris vraiment ce qui s'était passé. Mais malgré tout, le repérage a été fondamental pour que j'arrive à voir au-delà de ce que je voyais et donc savoir comment filmer ça. Donc vraiment, pour moi, le repérage est important. Après, il ne faut pas non plus s'épuiser ou épuiser les gens dans le repérage, bien évidemment. Il faut à un moment donné se dire, bon, ça y est, c'est bon, là on est prêt. Et je sais comment je vais arriver, avec voilà, quel matériel, dans quel rythme, etc. Même si tout ça, après, peut changer, quoi. Et puis après, le détachement, quand j'ai fait mon premier film, moi, je pensais... Je pensais que ces gens, j'allais les voir, les gens que j'avais filmés, j'allais les voir. C'était pas le collège, j'en avais eu un autre avant, que j'allais les voir pendant très longtemps. Parce qu'il y a une relation extrêmement forte qui se crée avec les gens qu'on filme, eux vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'eux. Et puis en fait, quand il n'y a plus la caméra, quand il n'y a plus le film, c'est pas la caméra, l'objet, on s'en fout, mais l'idée de cette idée qu'on est en train de faire un film. Qu'on est en train de raconter quelque chose qui, enfin en tout cas pour moi, plus grand que nous, quoi. C'est quand même ça qui fait que les gens acceptent de se donner comme ça, c'est qu'au fond, ce que je leur explique, c'est qu'on fait un film plus grand que nous, quoi. Enfin, voilà, cette histoire, elle n'est pas que la leur, elle est celle aussi d'autres gens, elle est voilà. Mais quand on n'est plus en train de faire ça, la relation elle est beaucoup moins forte, quoi. C'est un peu comme une histoire d'amour. Quand l'histoire d'amour s'arrête, on est content de voir l'autre, mais c'est plus du tout avec la même émotion, la même. Là, c'est pareil. Et au fond, ça s'arrête, quoi. Ça, on se revoit, on se retrouve, on peut se recroiser. Par exemple, je sais pas moi, les femmes d'entre nos mains, elles viennent, elles habitent Orléans, donc à chaque projection de mes films, enfin à chaque nouveau film, je tiens à aller présenter mon film à Orléans, je les invite et elles voient mes films à chaque fois et on est super content de se croiser, quoi. Voilà. Mais cette chose extrêmement forte, évidemment, n'est plus là, quoi.
Bien, on va. C'est toujours un peu la question de l'occupation des salles aussi, on ne peut pas trop déborder. Merci beaucoup, Mariana, de nous avoir parlé de ces choses avec autant de simplicité, de limpidité, de ces choses si, si importantes, je crois, dans la démarche documentaire. Voilà, merci beaucoup, Mariana. Et à la semaine prochaine, où on recevra Avi Moghrabi, hein, qui est un grand cinéaste. Également après Mariana. Donc, à bientôt. Merci encore,
à bientôt,
Mariana.
Merci à vous.